L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, 7e cassette, première face, page 155. Je me mis à envier le docteur qui se promenait sous le frais ombrage des bois, écoutant le chant des oiseaux, respirant l'agréable odeur des pins, tandis que j'étais là, à griller entre les parois du fortin, mes vêtements collés à la résine brûlante. Il y avait autour de moi tant de sang et tant de pauvres morts que mon dégoût de ce lieu devint presque aussi fort que de la terreur. Pendant que je nettoyais le fortin et lavais la vaisselle du déjeuner, ce dégoût et cette envie ne cessèrent pas de croître. Enfin, à un moment où je me trouvais près d'un sac à pain et où personne ne m'observait, je fis le premier pas vers mon escapade en bourrant de biscuits les deux poches de ma vareuse. J'étais stupide, je l'admets, et j'allais certainement me lancer dans une aventure insensée. Mais j'étais bien résolu à agir en prenant le maximum de précautions. S'il m'arrivait quelque chose de fâcheux, ces biscuits m'empêcheraient, à tout le moins, de souffrir de la faim jusqu'au lendemain soir. Je m'emparai ensuite d'une paire de pistolets, et comme j'étais déjà muni d'une poire à poudre et de balles, je me jugeai suffisamment armé. Le projet que j'avais en tête n'était pas mauvais en soi. Je me proposais de gagner l'extrémité de la pointe sablonneuse qui sépare la baie de la haute mer du côté est, de trouver le rocher blanc que j'avais aperçu la veille au soir et de m'assurer que c'était bien là que Ben Gunn cachait un canot. La chose valait la peine d'être faite, j'en suis persuadé encore aujourd'hui. Mais comme j'étais sûr qu'on ne me permettrait pas de quitter le fortin, je n'avais pas d'autre solution que de m'esquiver en cachette au moment où personne ne me verrait. Cette vilaine façon d'agir suffisait à rendre mon escapade condamnable, mais je n'étais qu'un gamin et j'avais pris une décision inébranlable. Une excellente occasion se présenta. Le châtelain Aigret étant fort occupé à panser le capitaine, la voie se trouvait libre. Je me précipitai vers la palissade, la franchis d'un bond et me glissai au cœur des arbres. Avant que mes compagnons aient pu s'apercevoir de mon absence, j'étais hors de portée de voix. Ce fut là ma seconde sottise, bien plus grave que la première, car à la suite de mon départ, il ne restait plus que deux hommes valides pour garder le fortin. Mais tout comme ma précédente escapade, elle contribua à nous sauver tous. Je me dirigeai droit vers la côte est de l'île, dans l'intention de longer la pointe de sable du côté de la mer pour éviter tout risque d'être vu du mouillage. L'après-midi était déjà assez avancé, bien qu'elle fût encore chaude et ensoleillée. Tout en me faufilant sous la haute futaie, j'entendais devant moi non seulement le tonnerre incessant du ressac, mais encore un bruissement de feuilles et un grincement de branches qui m'annonçaient que la brise marine s'était levée plus forte qu'à l'ordinaire. Bientôt, je sentis des courants d'air frais et en quelques pas, j'atteignis la lisière du bois. Je découvris alors la mer bleue et ensoleillée étalée jusqu'à l'horizon et les vagues écumeuses déferlant sur la grève. Je n'ai jamais vu la mer calme autour de l'île au trésor. Même quand le soleil flamboyait dans le ciel, quand l'air était sans un souffle et la surface des eaux bleues parfaitement calme, de grandes lames ne cessaient jamais de déferler nuit et jour sur la côte, avec un fracas retentissant. Je ne crois pas qu'il existe dans l'île un seul point où l'on puisse ne pas entendre leur bruit. Je pris grand plaisir à marcher le long du ressac, puis, estimant que j'étais allé suffisamment loin vers le sud, je profitai du couvert de quelques gros buissons pour gagner prudemment l'arête de la pointe de sable. Derrière moi s'étendait la mer, devant moi le mouillage. La brise, d'autant plus vite épuisée semblait-il qu'elle avait soufflé avec une violence inhabituelle, venait déjà de tomber. Elle avait fait place à des coups de vent légers, variables, venus du sud et du sud-est, chargés de grands bancs de brume. Le mouillage, abrité par l'îlot du squelette, était couleur de plomb, comme au jour de notre arrivée. Sur ce miroir bien lisse, L'Hispaniola se reflétait dans ses moindres détails, depuis la pomme des mâts jusqu'à la ligne de flottaison, y compris le pavillon noir qui pendait au pic de Brigantine. Silver, que je ne manquais jamais de reconnaître, était assis à l'arrière d'une yole qui se trouvait contre la goélette. Deux des mutins se penchaient par-dessus le bastingage à la poupe du navire. L'un d'eux, coiffé d'un bonnet rouge, était ce même scélérat que j'avais vu quelques heures auparavant à Califourchon sur la palissade. Les trois hommes semblaient bavarder en riant, mais naturellement, vu la distance d'un bon mille, près de 2 kilomètres, qui nous séparait, je ne pouvais entendre un seul mot de leur conversation. Soudain retentirent des cris horribles, inhumains, qui tout d'abord m'inspirèrent une grande frayeur. Mais je ne tardai pas à reconnaître la voix du capitaine Flint, et je crus même pouvoir distinguer à son brillant plumage l'oiseau perché sur le poignet de son maître. Peu après, le canot poussa au large en direction de la côte, et les deux hommes à bord de la goélette descendirent par le capot. À peu près simultanément, le soleil s'était couché derrière la longue-vue, et comme le brouillard s'amassait très vite, le jour se mit à baisser pour de bon. Je compris que je n'avais pas de temps à perdre si je voulais trouver le bateau de Ben Gunn ce soir-là. Le rocher blanc, très visible au-dessus des broussailles, était encore à 200 yards de distance, 200 mètres, vers l'extrémité de la pointe sablonneuse, et il me fallut pas mal de temps pour l'atteindre, en avançant le plus souvent à quatre pattes au milieu des fourrés. La nuit était presque tombée quand je posai la main sur son flanc rugueux. Juste au-dessous se trouvait un petit creux de terrain tapissé d'herbes vertes, caché par des talus et d'épais taillis qui me venaient à la hauteur du genou. Au milieu de ce minuscule vallon, il y avait une petite tente en peau de chèvre, semblable à celle que transportent les bohémiens en Angleterre. Je sautai dans le trou, soulevai un côté de la tente et découvris le canot de Ben Gunn. Objet rudimentaire s'il en fut jamais. C'était une carcasse de bois dur, grossière et toute de guingois, tendue de peau de chèvre, le poil en dedans. Cette embarcation était très petite, même pour moi, et j'ai peine à imaginer qu'elle ait pu porter un homme fait. Elle contenait un banc très bas, une espèce d'appui-pied à l'avant et une double pagaie en guise de propulseur. En ce temps-là, je n'avais pas encore vu de coracle, C-O-R-A-C-L-E, c'est une espèce de kayak, tel qu'en fabriquaient les Bretons d'autrefois. Les Bretons, là, ce sont les anciens habitants de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les Anglais d'autrefois, comme les Gaulois étaient les Français d'autrefois. J'en ai vu un depuis, et pour vous donner une idée parfaitement exacte du bateau de Ben Gunn, je vous dirai qu'il ressemblait au premier et au plus mauvais coracle qui soit jamais sorti des mains de l'homme. En tout cas, il en possédait certainement le principal avantage, car il était fort léger et très facile à transporter. Maintenant que j'avais trouvé le bateau, on aurait pu croire que mon désir de vagabondage était satisfait. Mais entre-temps, une autre idée avait germé dans ma cervelle et je m'en étais tellement entiché que je l'aurais, je crois, mise à exécution au nez et à la barbe du capitaine Smollett en personne. Ce nouveau projet consistait à me glisser furtivement jusqu'à la goélette sous le couvert de l'obscurité, à couper ses amarres, les câbles qui la retiennent, et à la laisser partir à la dérive pour s'échouer où bon lui semblerait. J'étais persuadé que les mutins, après leur échec de la matinée, par-dessus tout, levaient l'ancre et prendre leur hull large. J'estimais que ce serait leur jouer un bon tour que de les en empêcher. Or, comme je venais de voir qu'ils laissaient les gardiens de l'Hispaniola dépourvus de canots, je croyais pouvoir y réussir sans grand danger. M'étant assis pour attendre que l'obscurité fût complète, je fis un copieux repas de biscuits. Cette nuit était entre mille la plus propice à la réalisation de mon projet. Le brouillard avait maintenant recouvert toute l'étendue du ciel. À mesure que les dernières lueurs du jour diminuaient, puis disparaissaient, une obscurité dense se referma sur l'île au trésor. Lorsque finalement je mis le coracle sur mon dos et quittai en trébuchant à l'aveuglette le creux de terrain où je venais de souper, il n'y avait plus que deux points visibles sur toute la surface du mouillage. L'un d'eux, sur la côte, dans le marécage, était le grand feu près duquel les pirates vaincus se livraient à leur beuverie. L'eau, faible tache de clarté dans la nuit, indiquait la position du navire à l'ancre. Le reflux, c'est-à-dire la marée descendante, l'ayant fait virer de bord, son avant était maintenant tourné vers moi. Les seules lumières à bord se trouvaient dans la cabine, et ce que je voyais était un simple reflet dans le brouillard du flot de clarté provenant du sabord de poupe. Comme la marée baissait déjà depuis assez longtemps, je dus patauger à travers une longue zone fangeuse où j'enfonçai à plusieurs reprises jusqu'au-dessus de la cheville avant d'atteindre le bord du flot descendant. Je fis quelques pas dans l'eau, puis, au prix d'un peu de force et d'adresse, je posai le coracle, la quille en bas, sur la surface de la mer. Chapitre 23. Marée basse. Le coracle, j'eus de bonnes raisons de le savoir pendant tout le temps que je l'utilisais, était pour quelqu'un de ma taille et de mon poids, un bateau très sûr, d'une grande flottabilité, tenant bien la mer. Mais c'était aussi l'embarcation la plus capricieuse, la plus têtue, la plus difficile à diriger qui eût jamais existé. On avait beau faire, il manifestait une tendance marquée à voguer à la dérive, et la manœuvre qu'il réussissait le mieux consistait à tourner en rond. Ben Gunn lui-même a reconnu par la suite
qu'il n'était pas commode à manier tant qu'on ne connaissait pas ses façons de faire.
De toute évidence, moi, je ne les connaissais pas. Il tournait dans toutes les directions, sauf celles que je voulais prendre. La plupart du temps, nous présentions par le travers, et je suis certain que sans la marée, nous n'aurions jamais atteint la goélette. Par bonheur, quelle que fût la façon dont je pagayais, le jusant ne cessait de m'entraîner avec lui, et l'Hispaniola était juste en plein milieu de la passe, de sorte que je ne pouvais guère la manquer. Tout d'abord, elle surgit devant moi comme une tache plus sombre que l'obscurité. Puis ses espars et sa coque commencèrent à prendre forme. Puis l'instant d'après, me sembla-t-il, car plus j'avançais, plus le courant était rapide, je me trouvai à côté de la mare et m'en saisis. Le câble était tendu comme la corde d'un arc, tant le navire tirait sur son ancre. Tout autour de la coque, dans les ténèbres, les vaguelettes du courant bouillonnaient et babillaient comme un petit torrent de montagne. Un seul coup de mon coutelas et la goélette filerait à la dérive, emportée par la marée. Jusque-là, tout allait bien. Mais je me rappelais aussitôt qu'un cordage tendu, coupé brusquement, est aussi dangereux qu'un cheval en train de ruer. Si je commettais l'imprudence de séparer l'Hispaniola de son ancre, il y avait 10 chances contre une pour que le coracle et moi soyons projetés en l'air. Cette idée m'arrêta net. Une fois encore, si le hasard ne m'avait pas singulièrement favorisé, j'aurais dû renoncer à mon projet. Mais les brises légères qui s'étaient d'abord mises à souffler du sud et du sud-est avaient tourné au sud-ouest après la tombée de la nuit. Pendant que je réfléchissais, un coup de vent saisit la goélette et la poussa à contre-courant. À ma grande joie, je sentis le câble mollir sous mes doigts et la main par laquelle je le tenais plongea dans l'eau pendant une seconde. Aussitôt, je pris ma décision. Je tirai mon couteau de ma poche. Puis, l'ayant ouvert avec les dents, je sciai peu à peu le câble jusqu'à ce que le navire ne fût plus retenu que par 2 torrons. Les torrons, ce sont les brins, les ficelles, si tu veux, qui constituent le câble, en étant tortillés ensemble, en étant tordus, d'où ce nom de torrons. Ensuite, je m'arrêtai, attendant pour trancher ces derniers, qu'un nouveau coup de vent détendit un peu plus le câble. Pendant tout ce temps, je n'avais pas cessé d'entendre des voix bruyantes résonner dans la cabine. Mais à vrai dire, j'étais tellement préoccupé par d'autres pensées que je n'avais guère écouté. À présent, n'ayant plus rien à faire, je recommençai à prêter une oreille attentive. Je reconnus d'abord la voix du patron de canot, Israël Hans, qui avait été jadis le canonnier de Flint. L'autre était naturellement celle de mon ami au bonnet rouge. De toute évidence, les deux hommes étaient ivres et continuaient à boire, car pendant que j'écoutais, l'un d'eux, en poussant un cri inarticulé, ouvrit le sabord de poupe et jeta à la mer un objet pesant, sans doute une bouteille vide. Mais outre qu'ils étaient pris de boisson, ils semblaient en proie à une violente colère. Les jurons volaient durs comme grêle et de temps à autre, il y avait une explosion de fureur qui, j'en étais persuadé, ne pouvait finir que par des coups. Pourtant, chaque fois, la querelle s'apaisait et les voix grommelaient un peu plus bas jusqu'au début d'une nouvelle crise qui, à son tour, se terminait sans dégénérer en rixe. Une rixe, R-I-X-E, c'est une bagarre. Sur le rivage, je voyais la lueur du grand feu de camp en train de flamber à travers les arbres. Un des boucaniers chantait une vieille complainte de marin, lente et monotone. Chacun de ses couplets se terminait par un trémolo modulé d'une voix chevrotante, et elle semblait ne devoir finir qu'avec la patience du chanteur. Je l'avais entendu maintes fois au cours de notre voyage, et je me rappelais les deux vers suivants. Sur les 75 qu'avait embarqués, il n'en restait qu'un de vivant. Je songeais que ce refrain convenait un peu trop cruellement à une troupe qui avait subi des pertes si graves autour de la matinée. Mais en vérité, d'après ce que j'avais vu, tous ces hommes étaient aussi insensibles que la mer sur laquelle ils naviguaient. Enfin, la brise se leva. La goélette se déplaça de biais et vint plus près de moi dans les ténèbres. Ayant senti le câble mollir à nouveau dans ma main, je tranchai les dernières fibres d'un geste vigoureux. Comme la brise exerçait fort peu d'action sur le coracle, je fus presque aussitôt entraîné contre l'avant de l'Hispaniola. Au même instant, la goélette se mit à pivoter lentement sur son arrière et à éviter au courant. Je me démenais comme un beau diable, car je m'attendais à couler d'un moment à l'autre. Ayant constaté que je ne pouvais pas éloigner directement le coracle, je poussais droit vers l'arrière. Finalement, je parvins à dépasser mon dangereux voisin. Au moment où je donnais un dernier coup de pagaie, ma main rencontra un mince cordage qui pendait du bastingage de proue. Je l'empoignai aussitôt. Je ne saurais pas dire pourquoi je fis ce geste purement instinctif. Mais dès que j'eus saisi la corde et constaté qu'elle tenait ferme, le démon de la curiosité s'empara de moi. Je résolus de jeter un coup d'œil à travers la fenêtre de la cabine. Je tirai sur le câble, main sur main, puis, lorsque je me jugeai assez près, je me mis sur pied et me levai à demi, au risque de chavirer, de façon à apercevoir le plafond et une partie de l'intérieur de la cabine. Pendant ce temps, la goélette et son petit compagnon, le coracle, glissaient rapidement sur l'eau. En fait, nous étions déjà arrivés presque à la hauteur du feu de camp. Le navire parlait fort, comme disent les marins, son étrave coupant les rides innombrables de l'eau avec un clapotis incessant. C'est seulement lorsque mon regard fut au niveau de la fenêtre que je compris pourquoi les deux hommes de garde n'avaient conçu aucune inquiétude. Un seul coup d'œil me suffit, et de mon esquif instable, je n'aurais pas osé en risquer un second. Hans et son camarade, engagés dans une lutte à mort, étaient en train de s'étrangler l'un l'autre. Je me laissai retomber sur le banc juste à temps pour ne pas passer par-dessus bord. Pendant quelques secondes, je fus incapable de voir autre chose que ces deux visages empourprés et furieux, oscillant sous la lampe fumeuse. Je dus fermer les yeux pour les habituer de nouveau à l'obscurité. Là-bas, autour du feu, L'interminable balade avait pris fin, et toute la bande des mutins, réduits en nombre, venait d'entonner le refrain que j'avais entendu si souvent. Ils étaient 15 sur le coffre du mort. Oh, is et une bouteille de rhum. La boisson et le diable avaient réglé leur compte aux autres. Oh, is et une bouteille de rhum. J'étais en train de penser que le diable et la boisson travaillaient ferme en ce moment même dans la cabine de l'Hispaniola, lorsque je fus pris soudain par une embardée du coracle. Presque aussitôt, mon esquif sembla changer brusquement de direction et augmenta étrangement sa vitesse. J'ouvris les yeux. Tout autour de moi, des vaguelettes légèrement phosphorescentes déferlaient avec un bruit sec. À quelques yards de distance, quelques mètres, l'Hispaniola, qui m'entraînait encore dans son sillage, semblait hésiter dans sa course. Je vus ses vergues osciller dans l'obscurité, et en regardant mieux, je constatai qu'elle virait également vers le sud. Je tournai la tête et mon cœur bondit dans ma poitrine. La lueur du feu de camp se trouvait juste derrière moi. Le courant avait viré à angle droit, emportant avec lui le grand navire et le petit coracle bondissant sur les flots. De plus en plus rapide, bouillonnant et murmurant de plus en plus fort, il filait le long de la passe, droit vers la haute mer. Soudain, la goélette fit une violente embardée et tourna d'au moins 20 degrés. Presque au même moment, plusieurs cris se succédèrent à bord. J'entendis des pas pesants monter l'échelle du capot et je compris que les deux ivrognes, ayant enfin interrompu leur querelle, avaient pris conscience du péril où ils se trouvaient. Je me couchai à plat au fond de mon pitoyable esquif et recommandai pieusement mon âme à son Créateur. À l'extrémité de la passe, j'en étais sûr, nous allions trouver une barre de vagues en furie où toutes mes peines prendraient fin rapidement. Or, si je pouvais à la rigueur supporter de mourir, j'étais incapable de regarder approcher mon destin. Je dus rester ainsi pendant plusieurs heures, continuellement secoué par les vagues, trempé de temps à autre par les embruns, attendant la mort à chaque plongeon. Peu à peu, la fatigue s'empara de moi. Un engourdissement étrange envahit mon esprit au milieu de mes terreurs. Finalement, je cédai au sommeil et au fond de mon coracle ballotté par les flots, je rêvai du pays et de notre vieille auberge. Chapitre 24. Le voyage du coracle. Il faisait grand jour quand je m'éveillai et me trouvai en train de voguer à l'extrémité sud-ouest de l'île au trésor. Le soleil déjà levé m'était encore caché par l'énorme masse de la Longue-Vue qui, de ce côté, descendait presque jusqu'à la mer en formidable falaise. Près de moi se dressaient le cap Isla Bouline et la colline du mât d'Artimon. L'un était entouré de falaises de 40 à 50 pieds de haut, une quinzaine de mètres, et bordé de grosses masses de rocs éboulés. L'autre était nu et noirâtre. Comme un quart de mille à peine me séparait du rivage, 4 à 500 mètres, je songeai tout d'abord à pagayer vers la terre et à débarquer. J'eus tôt fait de renoncer à cette idée. De grosses lames déferlaient en mugissant parmi les rocs éboulés. De lourdes gerbes d'embrun jaillissaient et retombaient de seconde en seconde avec un bruit retentissant. Je compris que si je m'aventurais plus près, ou bien je serais fracassé contre cette côte sauvage, ou bien je m'épuiserais en vains efforts pour escalader ces falaises en surplomb. En outre, je voyais, rampant en groupe sur des roches plates, ou se laissant tomber dans la mer avec un fracas, d'énormes monstres visqueux, semblables à des limaces d'une taille incroyable. Il y en avait environ 50 ou 60, et leurs aboiements faisaient retentir les échos. J'ai su depuis que j'avais eu affaire à des lions marins. Ce sont des sortes de phoques à crinière, animaux absolument inoffensifs. Mais leur présence, ajoutée à l'aspect rébarbatif du rivage et à la violence du ressac, fut plus que suffisante pour m'ôter toute envie d'aborder à cet endroit. Je préférais mourir de faim en mer qu'affronter de tels périls. Cependant, j'estimais avoir devant moi un meilleur lieu de débarquement. Au nord du cap Islaboulin, la terre s'avance très loin dans les flots, laissant à découvert, à marée basse, une longue bande de sable jaune. Plus au nord encore se trouve un autre cap, portant sur la carte le nom de Cap des Bois, couvert de grands pins verdoyants qui descendent jusqu'au bord de l'eau. Je me rappelais ce que m'avait dit Silver sur le courant qui portait au nord, tout le long de la côte ouest, de l'île au trésor. Ayant pu constater d'après ma position que je me trouvais déjà soumis à son influence, je préférais laisser derrière moi le cap Islaboulin et réserver mes forces pour tenter d'aborder sur le cap des Bois à l'aspect moins rébarbatif. Une longue houle calme parcourait la mer. Une douce brise, soufflant régulièrement du sud, ne contrariait pas le courant. C'est pourquoi les vagues s'élevaient et retombaient sans se briser. S'il en avait été autrement, je n'aurais pas manqué de périr noyé. Mais en l'occurrence, mon léger petit bateau voguait avec une aisance et une sûreté surprenantes. Souvent, tandis que, étendu sans bouger au fond de l'embarcation, je risquais timidement un œil par-dessus le plat-bord, je voyais une énorme montagne bleue s'ériger au-dessus de moi. Pourtant, le coracle, bondissant avec souplesse, dansait comme sur des ressorts, puis retombait dans le creux de la vague, aussi léger qu'un oiseau. Fin de la première piste de la septième cassette, page 166, L'île au trésor, par Robert Louis Stevenson.